Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. Le Pharaon ajouta, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses corvées. Le jour même, le Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant. Vous ne donnerez plus comme avant de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient. Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge ces gens de travail, qu'ils y soient occupés. Et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Les inspecteurs et les commissaires du peuple vinrent annoncer au peuple, voici ce que dit le Pharaon. Je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne supprime rien de votre travail. Le peuple se dispersa dans toute l'Égypte pour ramasser du chaume en guise de paille. Les inspecteurs insistaient. Terminez votre tâche. Chaque jour, la tâche journalière, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des Israélites, établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas fini hier et aujourd'hui, comme avant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon en disant, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne pas de paille à tes serviteurs et l'on nous dit, faites des briques, et voici que tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. Le Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, rien que des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera pas de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des Israélites virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne supprimerez rien de vos briques, mais accomplissez chaque jour la tâche journalière. » En sortant de chez le Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent « Que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » L'Éternel dit à Moïse, « Tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. »
Voilà, bonjour à chacun, nous allons remettre ce temps dans la prière. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ta parole. Seigneur, fais-nous du bien par elle, veuille vraiment nous transformer pour que nous puissions toujours mieux t'aimer, toujours mieux te connaître, toujours mieux te servir, Seigneur, et ceci pour ta gloire. Amen. Ça va, vous m'entendez tous bien ? Alors le titre de la prédication de ce matin qui avait été proposé était « Un échec à vue humaine ». Un échec à vue humaine. Mais on aurait pu donner d'autres titres à cette prédication comme « La bataille s'engage, l'affrontement final a commencé ». Et en effet, dans le passage de ce matin, on assiste à la première confrontation entre Moïse et Pharaon. Et confrontation qui va apparemment tourner à l'avantage du Pharaon. Alors on comprend pourquoi le récit de l'Exode a rencontré un tel succès, notamment chez les réalisateurs de films de cinéma. On peut bien sûr penser aux 10 commandements avec Charlton Heston, avec son bâton fort, puissant. Alors, il y a tout d'abord, bien sûr, la victime, le peuple d'Israël, qui souffre de l'esclavage que lui impose Pharaon. Il y a ensuite un homme mauvais, rebelle à l'autorité divine. Bien sûr, je veux parler de Pharaon. Et puis, il y a un sauveur, Moïse. Et c'est là qu'est le problème, car si dans le film Les Dix Commandements, Moïse apparaît quand même assez largement comme le sauveur du peuple d'Israël, eh bien la Bible nous montre, le livre de l'Exode nous montre que le sauveur véritable est bien l'Éternel, est bien Dieu lui-même. Moïse, on a tendance à l'oublier, mais est un vieillard. Sans grande influence, sans réseau, il était berger pendant une quarantaine d'années dans un désert perdu. Il n'a à vue humaine pour aide qu'un autre vieillard, son frère Aaron. Comment penser raisonnablement que cette équipe de choc va pouvoir défier l'une des grandes puissances du moment ? N'importe quel grand stratège militaire ne parierait pas un seul centime sur ces sauveurs-là. Et il aurait bien raison. Imaginez que nos compatriotes français soient esclaves de la grande puissance américaine. Et qu'on en voit, alors j'en parle parce qu'il fait l'actualité, il a arpenté le salon de l'agriculture et a rencontré un très grand succès. On en voit Jacques Chirac et son grand ami Valéry Giscard d'Estaing. Je suis sûr qu'il y en a des tas là qui l'ont déjà oublié. Donc on les envoie frapper à la porte de la Maison Blanche pour demander à Barack Obama de laisser partir les Français. Réussirait-il ? On peut en douter, au mieux on les réexpédiera en France par le premier avion venu. Non, le sauveur, c'est bien Dieu, c'est lui le véritable héros du livre de l'Exode, nous l'avons déjà dit. Alors je vous propose de méditer ce texte en trois temps. Nous verrons donc tout d'abord que le combat est engagé. Et qu'il n'est pas engagé entre Moïse et Pharaon, mais bien entre Dieu et Pharaon. Dans une seconde partie, nous verrons que le peuple, en tout cas une partie d'entre lui, se trompe d'interlocuteur. Et nous finirons par Moïse, qui lui se tourne vers le bon interlocuteur. Alors c'est, je ne suis pas très doué, c'est la flèche de droite, c'est ça ? Formidable. Commençons donc par la première partie, le combat s'engage. Et au centre du combat se trouve la parole. Nous verrons donc la parole de Dieu, la parole de Pharaon ensuite, et nous terminerons par les effets de la parole de Pharaon. Donc nous relisons le verset premier. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon, « Voici ce que dit l'Éternel. » Le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Ça y est, la parole de Dieu est enfin annoncée au principal destinataire, le Pharaon. Laisse partir mon peuple pour qu'il m'honore comme il se doit. Alors, trois remarques concernant cette parole divine. Tout d'abord, Dieu, on le voit, prononce une parole libératrice. Notre Dieu est le Dieu qui libère. C'est, ça a été dit en introduction par Trevor, c'est le grand message du livre de l'Exode. Dieu libère son peuple. Mais nous verrons à la fin de cette prédication que c'est aussi le grand message de toute la révélation biblique. Deuxième remarque, Dieu ne change pas de discours en fonction de son interlocuteur. Contrairement aux hommes, comme nous le verrons un peu plus loin, lui, Dieu, ne change en rien son discours. Il ne le rend pas plus diplomatique parce qu'il s'agit justement du Pharaon. S'il te plaît, Pharaon, sois gentil, fais preuve de compréhension, laisse partir au moins une partie du peuple, les plus faibles, les femmes et les enfants, on peut faire ça de façon échelonnée. Non, le message n'a en rien été altéré. Vous pouvez le comparer, on n'a pas le temps, avec Exode chapitre 3, versets 9 et 10, Exode chapitre 4, versets 22-23. Dieu n'est pas en train de négocier avec le Pharaon. Il lui pose un ultimatum. Dieu ne négocie pas avec l'adversaire. Il ordonne. Une troisième remarque, enfin, nous avons vu que la parole de Dieu ne varie pas et la raison pour laquelle Dieu libère son peuple ne varie pas, elle non plus. Verset 1 toujours, « Qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Dieu signifie clairement au Pharaon que s'il libère le peuple des Hébreux, c'est pour que ce peuple lui rende gloire et honneur à lui. Le peuple des Hébreux est le peuple qui appartient à Dieu. C'est son peuple et Dieu fait savoir par cette déclaration au Pharaon qu'il n'a aucun droit sur ce peuple et qu'il est en train d'en jouir d'une certaine façon, de façon tout à fait illégale. Si Dieu délivre son peuple, ce n'est pas pour le livrer à lui-même et donc à un nouvel esclavage. C'est pour lui permettre de l'adorer, pour permettre à ce peuple de trouver sa vraie place, sa vocation. Et nous avons d'une certaine façon ici un peu la définition de la liberté. La vérité, la véritable liberté, c'est être un adorateur du Dieu vivant et vrai. Alors comme en écho à la parole de Dieu, vient une autre parole, celle de Pharaon. Verset 1 donc, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et au verset 10, nous avons « Voici ce que dit le Pharaon ». On pourrait presque ajouter « Voici ce que dit le Pharaon, le Dieu des Égyptiens ». La parole de Pharaon s'oppose à celle de Dieu. Dieu dit « Délivre », Pharaon dit « Asservissez ». Et comme nous le verrons, la parole de Pharaon est puissante. Mais avant d'être puissante, nous verrons qu'elle est arrogante, qu'elle est pleine de défiance et de provocation envers l'Éternel, envers Dieu. Verset 2, qui est l'Éternel ? Je ne le connais pas. Par cette parole, Pharaon ne demande pas de bonne foi à connaître Dieu. Il lui lance un défi. Le Pharaon témoigne ici d'un orgueil démesuré. Il interpelle Dieu en lui disant « Tu as dit cela ?» Mais moi, je m'oppose à toi en disant le contraire. Et on verra quelle est des deux paroles, la tienne ou la mienne, celle qui a autorité. Pharaon veut prendre autorité sur la parole divine. Il veut prendre autorité sur Dieu lui-même. La créature rejette son créateur pour prendre sa place. Avec Pharaon, nous sommes au cœur de l'idolâtrie. Au lieu de reconnaître humblement l'autorité de Dieu, Pharaon la défie et se fait Dieu par là même. Mais la parole de Pharaon n'est pas seulement idolâtre, elle est, nous l'avons déjà dit, puissante. Suivez avec moi le cheminement. Versets 6 et 7. Le jour même, le Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant. « Vous ne donnerez plus comme avant de la paille au peuple pour faire des briques, ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. » Le Pharaon donne ses ordres. Versets 10 et 11. Les inspecteurs et les commissaires du peuple vinrent annoncer au peuple. Voici ce que dit le Pharaon. Je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne supprime rien de votre travail. Les ordres sont transmis fidèlement, rapidement. Et verset 12. Le peuple se dispersa dans toute l'Égypte pour ramasser du chaume en guise de paille. Les ordres de Pharaon sont exécutés. La chaîne de commandement a bien fonctionné cette fois-ci. Nous ne sommes plus dans le même cas de figure que lorsque le Pharaon précédent avait ordonné que tous les bébés hébreux, mâles, soient exterminés. Cette fois-là, on s'en souvient, Pharaon n'avait pas été obéi. Non, ici on le voit bien, l'État égyptien est solide, tout entier au service de Pharaon. Pharaon est un roi puissant et sa parole fait autorité. Il n'a rien à voir avec les monarques modernes. Alors, on a suffisamment parlé de la reine d'Angleterre, on va la laisser tranquille ce matin. Prenons plutôt le cas du roi des Belges. Comme vous le savez, la Belgique passe par des moments difficiles. Sa cohésion nationale se délite. Est-ce que la parole du roi des Belges, alors déjà, l'a-t-on entendu? Oui, si on a été attentif, on l'a quand même entendu. Mais est-ce que la parole du roi des Belges a changé quoi que ce soit? Non. La parole du roi des Belges est sans autorité. Dans le passage qui nous est rapporté ici, ce n'est pas le cas. Le pharaon n'est pas le roi des Belges. Il est puissant. Et sa parole fait autorité. Elle a d'ailleurs une telle autorité qu'elle semble prendre autorité sur la parole divine. En effet, quel est le résultat de cette première confrontation entre Dieu et Pharaon? Au lieu d'être délivrés comme le demande Dieu, les Israélites sont encore plus accablés de travail. Et les responsables hébreux sont battus. Pharaon est un homme mauvais. En conflit avec Dieu, il incarne l'adversaire de Dieu et l'adversaire de son peuple. Et l'on voit bien grâce à ce passage que l'adversaire nous veut du mal. Nous sommes à notre troisième point, une situation tragique. L'adversaire nous veut du mal. Pourquoi insister sur ce point? Dans ce passage, d'une certaine manière, l'adversaire avance à visage découvert. Et l'on peut comprendre facilement à la lecture de ce passage ses mauvaises intentions à l'égard du peuple. Ce n'est pas toujours le cas. C'est même finalement assez rarement le cas. En général, l'adversaire apparaît toujours bien moins mauvais qu'il ne l'est. Pas aussi dur, pas aussi cruel que Pharaon. Au contraire, bien souvent, il va se faire passer pour notre libérateur. Il va usurper l'action libératrice de Dieu en nous soufflant le message suivant: « Ta fidélité à Christ est bien asservissante. Ne pas jouir de tout ce que le monde t'offre, ce n'est pas la vie véritable. Vivre la sexualité exclusivement dans le cadre du mariage, quelle vision réductrice !» Comme si la fidélité à Christ et la jouissance de sa création sous son regard et selon sa volonté n'étaient pas la véritable liberté. Ne nous y trompons pas. Le véritable visage de l'adversaire est celui de Pharaon. Aussi séducteur soit-il, l'adversaire n'a pour but que notre asservissement, notre malheur et notre perte. Que le Seigneur nous aide à en être convaincus. Alors une dernière remarque avant de passer à notre second point. Nous l'avons vu, les principaux acteurs de ce chapitre sont Dieu et son messager, Moïse, Pharaon, l'adversaire, et le peuple d'Israël, la victime. Alors nous avons instinctivement, à la lecture de ce passage, tendance à nous identifier à la victime. En plus, n'a-t-on pas suffisamment entendu que le peuple d'Israël était la préfiguration de l'Église? Le peuple, c'est nous. Les croyants d'aujourd'hui, cela ne fait aucun doute. Alors nous avons raison de le penser, car cette vision est tout à fait biblique. Mais elle peut être incomplète. Reconnaissons que nous pouvons aussi parfois être des pharaons. Toutes les fois où notre parole prend autorité sur celle de Dieu. Toutes les fois où nous prenons la place de Dieu. L'Église, bien sûr, en tant qu'institution, l'a malheureusement bien souvent fait, pour le malheur des hommes, et par là même, elle a privé Dieu de sa gloire. Mais nous aussi, en tant qu'individus, en tant que membres de l'Église du Seigneur, nous nous sommes trop souvent comportés comme des pharaons. Lorsque nous prenons autorité sur la parole de Dieu, lorsque nous voulons posséder les biens, les hommes, les femmes, comme Pharaon possédait le peuple, sachons-le, nous sommes des pharaons. Que Dieu nous pardonne et nous garde humblement dans la dépendance de sa parole et de sa personne. Passons à présent à notre deuxième point, le mauvais interlocuteur ou la mauvaise adresse, si vous préférez. Tout va mal. Tout va mal pour le peuple hébreu. Que faire? Verset 15. Les commissaires des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon. Les responsables du travail du peuple se rendent chez Pharaon, c'est-à-dire qu'ils se rendent chez l'adversaire. On peut facilement comprendre qu'il s'agisse du mauvais interlocuteur, de la mauvaise adresse. Alors, qui étaient ces surveillants? Comme très souvent, le pouvoir en place avait associé dans la chaîne de commandement des hommes issus du peuple asservi, et ceci pour des raisons d'efficacité dans le travail. Alors, il est difficile de savoir jusqu'à quel point ces surveillants étaient proches du pouvoir, dans quelle mesure ils collaboraient. Ils collaborent avec l'adversaire. En tout cas, une chose est sûre, ils sont surpris d'être frappés, d'être finalement traités comme les autres esclaves. Une autre question, viennent-ils en leur nom propre ou au nom du peuple tout entier pour demander des explications à Pharaon et pour obtenir de lui un peu de compréhension, d'humanité? Alors, les choses ne sont pas très claires, mais le verset 16 semble suggérer que le peuple y est au moins un petit peu pour quelque chose dans la demande d'intercession auprès de Pharaon. Il parle de ton peuple, ton peuple. Or, il est intéressant de revenir sur la fin du chapitre 4, la conclusion du chapitre 4, verset 31. Nous avons le peuple cru, le peuple cru. On constate à la fin du chapitre 5 que cette foi est bien vacillante. Je relis le verset 15 et 16. Les commissaires des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon en disant « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs ? On ne donne pas de paille à tes serviteurs. » Et l'on nous dit « Faites des briques et voici que tes serviteurs sont battus. » Comme si ton peuple était coupable. Combien de fois les surveillants hébreux se présentent à Pharaon comme ses serviteurs et le peuple hébreu comme son peuple, comme le peuple de Pharaon. À l'évidence, les Israélites n'ont pas encore bien compris qu'ils appartenaient non pas à Pharaon, mais bien à Dieu, qu'ils étaient le peuple que Dieu s'était choisi. Pire encore, c'est auprès donc de leur adversaire qu'ils espèrent trouver les solutions à leurs problèmes. C'est comme si je pensais être libéré en demandant à mon geôlier de m'ouvrir la porte. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'ouvrir la porte? C'est comme si le toxicomane demandait à son fournisseur de drogue de l'aider à sortir de la drogue. Comme si l'avare demandait à son conseiller financier de ne plus dépendre de l'argent. C'est en Pharaon que les Israélites continuent de placer leur confiance, de chercher les solutions. Alors cela nous paraît peut-être aberrant. Les Israélites semblent bien manquer du plus élémentaire des discernements. Et pourtant, n'est-ce pas très souvent notre façon de faire également? Face aux difficultés, face à l'épreuve, est-ce en Dieu que nous venons humblement chercher la solution ou est-ce ailleurs? Et si c'est ailleurs, sachons que nous faisons le jeu de l'adversaire. Face à l'asservissement, est-ce que nous nous tournons vers Dieu humblement, nous attendons à lui et à lui seul, ou bien allons-nous trouver les clés de notre libération ailleurs, en commençant bien souvent par nous-mêmes? Nous ne pouvons nous libérer nous-mêmes. Les hommes ne peuvent nous libérer. Et cela, c'est un autre grand message de l'Exode. Nous sommes asservis. Et c'est Dieu seul qui libère son peuple. En cherchant dans la créature notre libération, nous nous faisons idolâtres. Nous rejetons Dieu, nous l'outrageons. Nous faisons le jeu de l'adversaire et nous courons à notre perte. Nous courons à notre perte. La réponse du Pharaon. Alors, quelle est la réponse du Pharaon aux supplications des surveillants ? Verset 17-18, le Pharaon répondit « Vous êtes des paresseux. Rien que des paresseux, voilà pourquoi vous dites « Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera pas de paille et vous livrerez la même quantité de briques. » Le Pharaon ne manifeste aucune compassion et n'offre pas le soulagement souhaité. Après leur entrevue avec Pharaon, c'est même pire qu'avant. Dans le Semeur, nous avons la traduction suivante du verset 19. Les surveillants des Israélites se virent dans une très mauvaise situation. C'est même plus fort encore que dans la traduction que vous avez sous les yeux. Quoi de plus normal ? Ils sont allés voir l'adversaire. Devaient-ils s'attendre à autre chose ? Et là encore, une leçon salutaire pour nous. N'allons pas croire que l'adversaire va nous aider. Il ne nous veut que du mal. Il ne veut pas notre libération. Plus encore, il ne peut pas nous offrir notre libération. Il en est incapable. Ne perdons donc pas de temps à négocier avec lui. Mais comme Moïse, tournons-nous vers le bon interlocuteur. Frappons à la bonne porte. Alors, peut-être que certains se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Moi, je n'ai jamais négocié avec l'adversaire. Je ne me suis jamais tourné vers lui. Bien évidemment, nous ne l'avons jamais fait physiquement, comme les surveillants qui se présentent corporellement devant Pharaon. Mais nous le faisons régulièrement. Nous le faisons toutes les fois où nous donnons autorité à une autre parole que celle de Dieu sur l'autorité divine, justement. À chaque fois que nous plaçons une autre parole que celle de Dieu pour conduire nos vies. Ça peut être nos amis, groupe d'amis, un ami en particulier, un parent, une famille, les médias, bien évidemment, philosophes. Ça peut être une église, une association d'église, un responsable d'église. Soyons vigilants et frappons à la bonne porte. Alors, quelle est la conséquence de cette entrevue entre Pharaon et les surveillants ? Versets 20 et 21, « En sortant de chez le Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. » La conséquence, la division. Le Pharaon nous est présenté comme un homme orgueilleux, puissant, cruel, mais il se révèle être aussi très intelligent. Et c'est normal. C'est l'adversaire et n'allons pas croire que l'adversaire soit idiot. En mettant sous pression les Israélites, il espère bien créer la discorde entre ses conducteurs autoproclamés, que sont Moïse et Aaron d'une part, et le reste du peuple d'autre part. Et il y parvient avec une facilité déconcertante. C'est un grand stratège. Pharaon connaît bien la psychologie humaine et il manœuvre remarquablement bien. L'occasion ici pour nous de nous souvenir que si l'adversaire veut notre perte, il veut aussi notre division. C'est tellement facile de diviser des hommes et des femmes marqués par la chute. Et c'est un miracle d'entrer dans une église unie. Veillons et remettons-nous humblement entre les mains de notre Seigneur pour qu'il nous garde unis. Alors à ce stade de l'histoire, le titre donné à cette prédication est pleinement justifié. Un échec à vue humaine. C'est un échec total. Le peuple n'a jamais autant souffert. Il ne fait pas vraiment confiance dans ses conducteurs et le pharaon semble tout puissant. Et il est légitime de se poser la question du pourquoi, d'autant que Moïse le fait bien, lui. Au verset 22, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi Dieu laisse son peuple dans une telle souffrance ?» Ce récit de l'Exode nous relate des faits qui se sont passés il y a bien longtemps, et cela peut nous paraître un peu abstrait, mais il s'agit vraiment de situations terribles. On bat les gens, on les fait travailler comme des bêtes. Beaucoup meurent. Nous sommes face à une situation profondément injuste et révoltante. Pourquoi Dieu permet-il cela ? Le livre de l'Exode nous livre la réponse. L'auteur, Moïse, inspiré par Dieu, prend un soin considérable pour que personne ne puisse penser que la libération du peuple a été le résultat de la volonté, de l'intelligence, des actions humaines. La libération du peuple n'est que le fait de Dieu et de personne d'autre. Oui, à vue humaine, tout est perdu. C'est l'échec total. Aucun homme ne peut raisonnablement sortir le peuple de sa situation. Conclusion, si le peuple est libéré, ça ne peut être que le fait exclusif de Dieu. Et c'est à lui que doit revenir toute la gloire. La raison pour laquelle Dieu laisse se développer un temps seulement, c'est toujours un temps. De telles situations, c'est pour pouvoir mieux manifester sa puissance libératrice et sa gloire. Alors, heureusement pour vous, pour moi, Trevor, dans son découpage du livre de l'Exode, nous a laissé donc les deux derniers versets du chapitre 5 et le premier verset du chapitre 6. Parce que c'est vrai que si on devait s'arrêter au verset 21, nous n'aurions pas grand moral cette semaine. Alors, c'est notre troisième partie qui sera en même temps notre conclusion. Le bon interlocuteur, ou si vous préférez la bonne adresse. Moïse non plus ne témoigne pas d'une foi exemplaire. Il ne se montre d'une certaine façon pas vraiment plus solide que le reste du peuple. Mais, à la différence du peuple, lui, par la grâce de Dieu, se tourne vers le bon interlocuteur. Dans la difficulté, Moïse se tourne vers Dieu, même si c'est pour lui exprimer ses doutes. Un Moïse d'abord qui n'est pas si solide que cela. Dans notre première partie, on avait dit que Dieu ne change pas sa parole en fonction de son interlocuteur. Il semble qu'il n'en soit pas de même pour Moïse. Je vous relis le verset 3. Ils dirent, donc c'est Moïse à Aaron, le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous, permet-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, jusqu'ici tout va bien, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. Si vous relisez attentivement les déclarations de Dieu dans les chapitres précédents, on ne trouve pas trace d'épée et de peste. Moïse rapporte les paroles de Dieu au Pharaon. Il faut le reconnaître vraisemblablement en les retouchant un peu. Alors d'après certains commentateurs, ces paroles retouchées seraient un signe de la fragilité de Moïse face au Pharaon. Et donc un signe de son peu de confiance dans le Dieu qui s'est pourtant révélé à lui au milieu du buisson ardent comme celui qui est. Plus encore, Moïse ne comprend pas que Dieu tarde à libérer son peuple alors que Dieu avait tout annoncé à Moïse, et notamment l'endurcissement du Pharaon. Chapitre 3, verset 19, chapitre 4, verset 21. Une foi fragile donc, mais une foi véritable. Contrairement aux surveillants qui se tournent vers Pharaon, Moïse se tourne vers Dieu, car il sait que c'est en lui que se trouve la solution. Un bel exemple pour nous, ne cherchons pas d'abord à être fort spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire exactement d'ailleurs, cherchons plutôt à dépendre de Dieu, à nous en remettre à lui, humblement, toujours et encore. Alors comment Dieu va-t-il répondre à Moïse ? Verset 1, chapitre 6, l'Éternel dit à Moïse, « Tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir, une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Alors est-ce que vous vous souvenez de la prédication de Keith ? Il y a 2 semaines sur Exode 3. Alors, je ne vais pas vous demander de résumer les 3 points, mais voilà ce que Keith avait mis en avant. Dieu se présente comme le Dieu qui délivre. C'était Exode 3. Le Dieu qui délivre, le Dieu qui est et le Dieu qui promet. Dieu se révèle dans ce premier verset comme le Dieu qui promet. Le Dieu qui promet la délivrance. Dans ce chapitre, tout va mal. Et tout va de mal en pis. on assiste à une aggravation de la situation au point que l'on se dit, beaucoup d'Israélites ont dû se le dire, on a touché le fond. Or, c'est de ce fond que Dieu promet la délivrance. D'une certaine manière, ce texte nous parle de l'évangile. À quel moment touche-t-on le fond dans les évangiles? Si ce n'est à la croix. Jésus, alors qu'il agonise sur la croix, connaît la pire des situations, tout comme le peuple. Au chapitre 5, Jésus a été rejeté, Jésus a été jugé, frappé, moqué, abandonné par ses disciples. Bien pire, il est abandonné du Père. Il meurt seul, lui le Fils de Dieu, lui Dieu le Fils. À la croix, c'est Dieu qui meurt. Peut-on imaginer événement plus tragique, plus grave? À côté de la mort de Dieu à la croix, l'esclavage des Israélites fait pâle figure. Et pourtant, de la même façon que Dieu annonce la libération au pire moment, à la croix, le pire moment pour notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu réalise cette libération. Paradoxalement, c'est dans la situation la pire qui soit, la croix, la mort, que Jésus paye la rançon qui va nous libérer. Et par là même, il manifeste de façon on ne peut plus éclatante toute sa gloire. Alors, je lis dans Jean, chapitre 12, verset 23, Jésus leur dit, donc il parle à ses disciples, vous pouvez juste écouter, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. De quelle heure Jésus parle-t-il ici? Sinon de sa mort à la croix. C'est à la croix, au pire moment, que Dieu va libérer son peuple et manifester ainsi toute sa gloire. Et la libération du peuple hébreu au pire moment de son histoire par le Dieu qui est, eh bien cette libération n'était que l'ombre de notre libération à venir en Christ. La libération du peuple hébreu a manifesté la gloire de Dieu. Notre libération en Christ, par Christ, la manifeste d'une façon plus extraordinaire encore. Le peuple est asservi. Et à l'image du peuple hébreu, nous sommes asservis au mal, au péché, et seul le sacrifice de Christ à la croix peut nous libérer. Dieu est le Dieu qui promet. Il nous promet de nous délivrer si nous plaçons notre confiance en lui, dans l'œuvre libératrice de son Fils. Nous sommes comme Moïse au début du chapitre 6, comme tous les hommes avant lui et après lui, qui ont reçu une promesse de la part de Dieu. Dieu, tout comme il annonce à Moïse la libération du peuple à venir, annonce notre libération. Et nous sommes dans cette tension. Le croirons-nous? Est-ce que nous nous tournerons vers lui comme Moïse l'a fait? Ou bien retournerons-nous vers Pharaon, vers notre esclavage? Que Dieu, dans sa grâce, nous permette de croire et de nous emparer de cette libération qu'il nous offre en Christ, et ceci pour sa gloire. Amen.